Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou actuellement sur le site YouTube et sur la chaîne Erdiwa. Vous pourrez écouter ce podcast au studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 4 personnes du domaine hospitalier de Die et vous êtes donc des soignantes. Entre guillemets, suspendu pour l'instant. Et on va commencer les présentations, à commencer par Jennifer. Bonjour.
Bonjour.
Jennifer, vous êtes agent de service hospitalier et actuellement vous êtes suspendu en arrêt de travail.
Oui, c'est ça.
Ensuite, je passe à Mallory. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière.
Oui.
Et actuellement en fonction, toujours voilà. À l'hôpital de Die. Ensuite, Virginie, pareil que bonjour. Jennifer, agent de service hospitalisé. Donc, on dira ASH. Et vous êtes aussi en arrêt de travail actuellement.
Oui, c'est ça.
Pour finir, Adèle, qui est aide-soignante, est en arrêt maladie actuellement. Et on va commencer par vous, Adèle. Vous aviez le désir de lire un texte.
Donc oui, moi je vais vous lire un texte que la CGT de Die a envoyé au directeur de l'hôpital de Valence, du coup, au directeur de l'hôpital de Die, ainsi qu'à l'ARS et à la mairie de Die. Donc cette lettre, on commence objet. Alerte concernant les effectifs des agents hospitaliers de l'hôpital de Die. Monsieur, par ce courrier, nous faisons part de notre inquiétude concernant le bon fonctionnement du centre hospitalier de Die. Nous constatons actuellement une réelle baisse des effectifs soignants. Arrêt maladie, démission, désistement de prise de poste. Dans notre établissement, les équipes travaillent constamment à flux tendu. L'auto-remplacement des agents en congé ou en arrêt maladie est une pratique instaurée depuis longtemps, ce qui entraîne l'épuisement des équipes. La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier le problème. Depuis plus d'un an et demi, les soignants ont fait de leur mieux pour répondre aux différents protocoles sanitaires, changeant aux contraintes matérielles et économiques. À ce jour, l'épuisement des soignants est palpable. L'obligation vaccinale validée le 5 août a suscité énormément de souffrance au travail, ainsi qu'un sentiment de mépris de leurs fonctions. Un bon nombre de soignants se sent dépossédés de son libre arbitre et pris au piège entre l'envie d'exercer le métier qu'ils aiment et une obligation vaccinale, sans parler du pass sanitaire qui induit une discrimination dans l'accès aux soins. Chacun devrait pouvoir agir et respecter ses intimes convictions. Le débat est vif aujourd'hui, personne ne peut le nier. L'obligation vaccinale et la politique de santé actuelle amènent le personnel hospitalier à l'arrêt maladie. Les agents nous rapportent de la confusion, du stress, de l'incompréhension et pire, des remises en question de leur carrière professionnelle. Certains soignants ont déjà démissionné ou réfléchissent vivement à une reconversion. Peut-on aujourd'hui se permettre de perdre une partie de nos soignants ? Nous refusons d'endosser les responsabilités du dysfonctionnement global de l'hôpital. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous alertons sur cette situation catastrophique. Certains services ne fonctionnent déjà plus. Le territoire sera bientôt dénué de services hospitaliers, ce qui entraînera une mise en danger de la population. Vous pouvez encore faire entendre votre voix sur les difficultés rencontrées par les structures hospitalières. Le personnel n'a pas besoin d'être acculé, mais bien d'être soutenu par sa direction locale. Quelles sont vos intentions face à la baisse d'effectifs ? Encore combien de lits fermés ? Il nous semble urgent de lever l'obligation vaccinale pour remettre le soin et la bienveillance au sein de vos et de nos préoccupations. Nous vous souhaitons bonne réception et espérons un retour de votre part. Donc, à ce jour, nous n'avons eu aucun retour. Voilà l'intérêt qu'on porte aux soignants.
Quel est le sentiment que vous avez éprouvé quand le gouvernement a décidé de cette vaccination obligatoire pour le personnel soignant en France ?
J'ai trouvé que c'était un non-sens,
que ça n'avait aucune justification. Oui, ça c'est la première chose que j'ai éprouvée.
Surtout qu'on a travaillé avec le Covid pendant un an et demi en fait. On travaillait, on revenait travailler même si on avait le Covid. C'est ça qu'on ne comprend pas en fait. C'est que pendant un an et demi, on a dû faire l'effort. On est venu, on avait peur au début de cette maladie. Et voilà la reconnaissance que l'on a aujourd'hui.
On peut se rappeler effectivement plus des moyens qui étaient consacrés au personnel soignant à l'époque, avec un matériel très soit absent ou alors de très mauvaise qualité ou périmé même. Ouais. Là, à l'heure actuelle, donc le taux d'incidence pourrait prêter à peut-être à calmer cette campagne de vaccination obligatoire, mais il n'en est rien puisque on risque d'avoir une prorogation au-delà du 15 novembre de cette loi du pass sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression aussi que ça n'a aucune fin, que ça ne s'arrête jamais d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que non seulement il n'y a aucune fin, mais il n'y a aucune issue en même temps. Voilà.
Comment se passe donc le fait d'ailleurs l'impact de cette application de loi sur le personnel actuel à DI, au centre hospitalier de DI, qu'en est-il, si vous pouvez vous exprimer sur le nombre de personnels présents ou absents?
On ne peut pas vraiment s'exprimer là-dessus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de soignants qui sont fait vacciner pour garder leur emploi. Et ça a été un chantage atroce, en fait. C'est soit vous vous vaccinez, soit vous perdez votre salaire. Voilà.
L'application s'est faite comment au niveau de l'hôpital de Die, de cette loi? Vous aviez eu une réunion plénière ou alors c'est une convocation individuelle pour proposer ce vaccin?
On a reçu une note de service. Les notes de service étaient affichées de partout, dans les salles de pause, dans les bureaux. On l'a reçue à domicile avec notre fiche de paye, nous expliquant bien qu'on allait être obligé de se vacciner. Sinon, au vu de la loi, on risquait d'être licencié. Parce qu'à l'époque, on parlait de licenciement.
Je crois que ça a été rétoqué, hein, il me semble.
Voilà, ils ont changé. Sauf que, bon, bah, c'est pas mieux. Hein. Ce qu'ils proposent, c'est une suspension. C'est-à-dire que donc on n'a pas de salaire. On n'est pas viré, mais ça revient au même. On perd tous nos droits et notre droit d'exercer.
Comment vous vivez justement cette perte de capacité à vivre tout simplement par cette suspension de salaire, du fait d'être en arrêt de travail ou en arrêt de maladie? Peut-être pas en arrêt de maladie, en arrêt de travail plutôt.
Alors moi pour l'instant je travaille encore, mais dans un mois j'aurai plus le droit de travailler. Mon cas à moi c'est que j'ai eu le Covid à la fin de l'été, donc normalement on devait attendre 6 mois avant de se faire vacciner. Apparemment la loi a changé, on devrait attendre 2 mois. J'attends toujours que ma direction me fasse passer cette loi que je ne trouve nulle part. Donc dans un mois, j'ai plus de revenus, donc c'est très angoissant. J'ai une famille à nourrir, comme beaucoup. Beaucoup de collègues m'ont dit, mais moi je l'ai fait, est-ce que je ne peux pas faire autrement? J'ai une famille à nourrir. Mais moi c'est pareil. Mais bon, j'ai l'impression que c'est... On me met un pistolet sur la tempe et on me dit, on va jouer à la roulette russe.
On peut peut-être aussi vous demander de vous exprimer sur la raison qui vous empêche de vouloir... Enfin, qui vous amène à refuser ce vaccin.
Alors, je n'ai pas du tout confiance dans ce vaccin. Je ne suis pas anti-vaccin. J'ai beaucoup voyagé. J'ai un nombre de vaccins incalculable sur mon passeport santé. Mais pour moi, celui-là, on n'a pas assez de recul. C'est quand même de l'ARN messager. Donc, on va demander à mes cellules de fabriquer une protéine de spike. Donc, mes cellules vont déjà être sacrifiées pour fabriquer ça. Et on ne sait pas du tout quels vont être les effets secondaires. Je vais juste parler de ce que je vois autour de moi, parce que bon, ben voilà, on entend plein de choses. Autour de moi, je vois beaucoup d'effets secondaires, des types cutanés, neurologiques, des malaises, plein de problèmes qui me font encore plus douter et me dire non, moi je ne suis pas malade, je n'ai pas envie de me rendre malade pour pouvoir avoir le droit de soigner des gens. Et là, on nous criminalise en nous disant... Vous êtes soignant, vous n'êtes pas vacciné, c'est à cause de vous qu'on ne va jamais sortir de cette crise. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne protégez pas nos aînés, vous êtes dangereux. Et je trouve que c'est un message qui est
trop
absurde.
Trop violent. Ouais.
C'est violent et c'est absurde. Il n'y a aucune logique dans tout ça en fait. En fait, je trouve que c'est tellement gros, il n'y a tellement aucune logique dans la prise en charge de cette crise sanitaire que je comprends pas pourquoi des gens en fait y adhèrent. Et alors c'est peut-être parce que j'écoute pas les médias en fait, mais je sais pas, moi je vois ça avec mon libre arbitre de soignante présente depuis le début de la crise et je trouve qu'il y a que des aberrations dans cette prise en charge. Voilà.
J'avais déjà cité ce chiffre que j'avais comptabilisé moi-même sur le site donc, de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Sur une période de 2 mois, je crois que c'était juin-juillet, il y avait eu 280 000 cas d'effets indésirables
au vaccin.
Voilà, donc moi, c'est pareil, hein, j'ai cette réticence par rapport à mon état de santé, donc je reste prudent à ce niveau-là. Jennifer, quelle est ta fonction en tant qu'agent de service hospitalier ?
Oui, alors du coup, en tant qu'agent de service hospitalier, on sert les repas, donc les petits déjeuners, le repas de midi, le repas du soir, et on entretient les locaux aussi dans les chambres et les communs.
Donc vous avez un contact avec les patients hospitalisés.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est vrai que des fois, nous, on a un peu plus de temps que les soignants qui ont beaucoup de choses à faire, donc on peut prendre des fois un peu le temps de discuter avec eux et... voilà.
Et aussi sous les conditions du port du masque, de combinaisons de protection.
Oui, on avait la même tenue que les aides-soignantes et les infirmières quand c'était en pleine crise du Covid. Oui.
Donc pareil pour Virginie, hein, vous
peut-être,
aussi.
Peut-être pas la même époque, moi quand j'ai travaillé en
alors,
tout cas.
Alors moi je tiens à préciser qu'au début du Covid, on n'avait pas le matériel pour travailler. Donc, même voir pas de masque, et que ça les a pas embêtés de nous faire travailler dans ces conditions. On nous applaudissait tout au début. Aujourd'hui, c'est limite qu'on est plus rien du tout aux yeux des gens. Je suis très touchée, mécontente, parce que aujourd'hui, nous, on nous impose ce vaccin. Moi, je ne fais partie des gens qui ne peuvent pas faire ce vaccin. Là, il y a un litige pour moi parce que je dois faire des tests, justement, et voir des spécialistes dans un mois. J'ai été suspendue de salaire, et je suis en arrêt depuis un certain temps. Hein, et apparemment, il n'avait pas lieu de me suspendre.
Alors, comment êtes-vous soutenue financièrement depuis votre arrêt de travail ?
Ah ben, pour l'instant, je suis suspendue. Donc, à partir du 15, j'étais suspendue. Et ben, c'est un tracas pour moi. Pour l'instant, je suis vraiment embêtée.
Justement, est-ce qu'il y a une prise de contact par les collectivités ou un échange entre le personnel hospitalier et puis les collectivités locales pour trouver des solutions aussi pour les problèmes financiers qui pourraient arriver ?
Et ben pour l'instant, j'ai commencé par étapes et puis je vais voir avec une assistante sociale, voir ce qui pourrait trouver des solutions, quoi. Parce que pour l'instant, je suis dans le désarroi.
Mais sinon, il n'y a pas de lien, en fait. Personne est vraiment... Enfin, il n'y a personne qui regroupe tout ça. Et du coup, c'est un peu à chacune d'aller fouiner, d'aller trouver les solutions et après de les rapporter aux collègues qui sont en difficulté éventuellement. Après, il y a une cagnotte de soignants pour les soignants suspendus qui va être mise en place apparemment pour les aider.
Je passe ensuite à Mallory. Vous êtes donc infirmière. Oui. On peut quand même préciser votre activité auprès des patients également.
Alors, moi, ça fait un an que je suis arrivée à Die et je travaille à l'EHPAD. Donc encore plus sensible comme sujet. Et avant, je travaillais dans un service d'urgence. C'est là où j'ai commencé à avoir la crise Covid, donc et accueillir les gens, effectivement sans masque, sans rien, parce qu'on nous disait que c'était pas contagieux et que de toute manière, on ne pouvait pas soigner cette maladie. Donc on prenait en charge que les gens en détresse respire, on les intubait sans matériel. Hein. Donc c'est là que j'ai attrapé le Covid pour la première fois, mais on nous testait pas à l'époque. Donc ça coûtait trop cher. On ne pouvait pas savoir. Voilà. Et là, maintenant, je suis arrivée à Die et je travaille à l'EHPAD. Donc, je suis en lien constant avec tous les résidents de l'EHPAD. Je leur donne leur traitement, je leur fais leur pansement. J'alerte le médecin quand il y a des problèmes. Et je fais le lien avec les familles. Voilà.
Vous semblez dire avoir été atteinte plusieurs fois du Covid.
Je l'ai eu une deuxième fois. Là, j'ai attrapé le variant Delta à la fin de l'été, qui est passé franchement comme une lettre à la poste parce que j'ai des anticorps au taquet. Donc voilà, je l'ai même pas refilé à ma famille. Ils ont été testés négatifs. Donc je trouve que je ne vais pas me faire une injection pour quelque chose que mon corps peut combattre tout seul. Et en plus, par rapport à quelqu'un de vacciné, je suis autant... les gens vaccinés attrapent le Covid et le refilent aussi, le transmettent aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'avion, même si on est vacciné, si on n'a pas un test PCR négatif. Donc ça prouve bien que ce vaccin ne sert strictement à rien, sinon à nous rendre malades. Donc voilà, non, j'ai encore un esprit critique et justement, étant dans le médical, je vois que ça ne sert à rien. Pardon.
Adèle, vous êtes aide-soignante, ouais. Donc pareil, votre activité auprès des patients.
Du coup, une aide-soignante, c'est vraiment, on est auprès des patients H24, on les aide à se lever, on les aide à se laver, à s'habiller, à se nourrir, à s'occuper, et ensuite, en fin de journée, à se coucher. Voilà.
Vous avez vécu ce qui s'est passé sous le Covid en étant à l'hôpital de Die. Comment ça s'est produit, justement, cette vague peut-être de malades ou de personnes inquiètes aussi.
On a eu beaucoup à rassurer les gens, en fait. Les gens avaient vraiment très peur. Et ça a été épuisant. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on était très inquiets parce qu'on ne connaissait rien de cette situation au début. En même temps, on avait des protocoles sanitaires qui changeaient toutes les semaines, qu'il fallait se réadapter. Peu de matériel. Ça a été très angoissant. Et pour les patients, et pour les soignants.
Oui, puis des fois, il n'y avait pas de directives claires pour les repas. On s'est organisé entre nous pour savoir comment on fait pour pas contaminer les gens. Enfin, c'était un bazar à tout réorganiser tout le temps et c'était épuisant.
Parce que ça implique aussi un protocole d'hygiène supplémentaire par rapport à cette propagation à éviter.
C'est ça. Ouais.
Et ça a été pris en compte dans l'emploi du temps ou alors ça, c'est une activité qui a pris beaucoup plus d'espace et qui vous a peut-être mis la tête sous l'eau aussi.
Il fallait juste aller plus vite.
Ouais. Voilà.
Non, ça n'a pas été pris en compte du tout, en fait. Et du coup, c'était sur notre temps de travail qu'on devait s'équiper et tout ça. Désinfecter.
Dans l'hôpital de Die, est-ce qu'il y a quand même des rapports humains avec la direction ou alors, est-ce que c'est simplement une succession de notes de service?
C'est plutôt une succession de notes de service. Ils avaient quand même proposé une journée où on devait venir pour qu'ils nous expliquent ce qui nous attendait si on refusait cette vaccination. Et au final, en fait, c'était les RH qui étaient présents. Personne pour nous accueillir en particulier. Et ils déballaient leurs petits discours formatés qu'on leur avait dit de dire. Et puis pas d'échange, aucune discussion. Il y en a certaines qui ont essayé de demander leur compte épargne temps, pouvoir poser les jours qu'elles ont travaillé déjà pour éviter cette vaccination. Il y en a d'autres qui ont essayé de demander une mise en disposition. Tout a été refusé, en fait.
Et puis aucune empathie, juste des courriers avec... on est tous dans des situations différentes. On a des enfants ou pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Enfin, c'est inhumain de mettre des gens dans des circonstances comme ça où moi, je suis pareil, je suis en arrêt de travail. Je suis enceinte de 3 mois et demi. Je ne peux pas aller travailler parce que physiquement, je ne suis pas en capacité. Je ne peux pas chercher un autre emploi parce que je ne peux pas travailler. Donc, ils mettent dans une situation où j'ai plus d'argent pour nourrir mes 2 autres filles. Et aucune lettre de on est désolé, on applique la loi comme on peut. Rien, aucune empathie. Alors moi, je leur envoyais des mails aussi au directeur de Valence, de Die, ressources humaines, tout ça. J'ai dû prendre des rendez-vous en plus pour leur dire mais il y a quelle possibilité pour nous, en fait. Mais ils n'ont rien à part la vaccination ou la démission.
Comment s'est organisé ce mouvement aussi en réaction à cette note de service qui vous oblige à vous vacciner? Comment ça s'est produit au sein de l'équipe pour cette prise de conscience et de pouvoir s'organiser aussi pour venir en aide aux personnes qui ne sont pas vaccinées?
C'est un peu compliqué parce qu'on est toutes de différents services et on est quand même une minorité. On a été assez stigmatisés et les gens nous ont reproché notre position. Et donc, il a fallu tenir bon. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont été très en colère. Et après, entre nous, on avait juste décidé de se réunir pour en parler un petit peu. Et c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne travaillaient pas à l'hôpital, mais qui étaient avec nous, en fait, qui voulaient savoir comment ils pouvaient aider. Parce qu'il y a l'obligation vaccinale, mais il y a aussi le pass sanitaire qui est... mais c'est quelque chose d'horrible. Quand je vois les contrôles devant l'hôpital, moi, je ne peux pas passer devant et rien dire. Enfin, ça me révolte. Donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Mais voilà, on s'est réunis pour essayer de discuter. La police était présente pour nous surveiller, comme si on était des criminels.
Quand vous dites la police, c'est la gendarmerie ?
La gendarmerie, pardon, oui.
Qui était dans les locaux ?
On s'est réunis plusieurs fois à plat. Du coup, on s'était dit c'est un endroit public. Et la gendarmerie avait été au courant de notre rassemblement. Ils ne se sont pas du tout interférés à notre rassemblement. On n'était pas si nombreux que ça. Mais bon, ils étaient là, quoi.
En tant qu'employé, vous avez aussi des syndicats, j'imagine, qui sont peut-être là aussi pour vous aider ou seconder, vous éclairer sur des démarches.
Ben, du coup, on n'a pas eu beaucoup de retours des syndicats. Apparemment, tout le monde était... Enfin, les syndicats de l'hôpital de Die étaient pour l'obligation vaccinale. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris. Voilà.
Voilà. Mais par rapport justement à ce droit, cette perte d'activité au refus du vaccin, ça n'a levé aucune objection au niveau des syndicats localement.
Ben, du coup, là, il y a quand même la CGT de Valence qui a pris les choses en main. Et il y a un recours en justice qui est en cours. Et du coup, les soignants de Die ont pu se grouper aux soignants de Valence pour cette action.
En fait, il y a une évidence, c'est que chaque centre hospitalier est un peu isolé par rapport aux uns et aux autres. J'imagine les rapports sont très limités entre vous. Je parle du personnel. Hein.
Ouais. On ne se voit pas du tout, on ne communique pas du tout, en fait.
Et comment avez-vous réussi justement à vous relier avec Valence ?
Ben, du coup, c'est grâce à la CGT Valence et la CGT de Die, qui est une succursale en fait, de Valence, parce qu'à Die, ils n'ont pas encore plein droit. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on a pu se rapprocher de la CGT Valence, en fait.
Parce qu'en fait, elle dit
FO et
du coup, moi, je l'ai appelée, celle de FO, et du coup, elle m'a dit, non, il n'y a aucune possibilité. Voilà.
C'est, comment il dit, mon voisin, c'est les passe-plats de Macron.
En tout cas, pas partout, je crois, mais là bah, partout. Même pas essayer de m'envoyer vers quelqu'un d'autre si elle ne savait pas, enfin, rien du tout, quoi.
Et d'ailleurs, le public, vous disiez qu'il vous applaudissait au printemps 2020, lors de la première vague. S'il y a eu retournement de situation, on entend des propos comme ces annonces faites sur certaines radios nationales qui culpabilisent la personne qui ne s'est pas vaccinée par son opinion propre, mais qui met en danger les autres qui ont envie de vivre. Voilà.
Normalement.
Oui, normalement. Donc, comment vous voyez ce type de message ?
Ça nous plaît, nous, de vivre anormalement. Ça nous plaît beaucoup de ne pas avoir de revenus. Enfin, les gens ne se posent pas la question de dire dans quelle situation... Ce serait plus facile d'aller se faire vacciner, ça c'est sûr, pour notre vie sociale, pour notre vie professionnelle. Mais juste à un moment, il faut aussi savoir dire non quand on a...
Quand la loi est injuste.
Voilà.
Vous trouvez que c'est une loi injuste ?
Oui. Moi, je pense que si le gouvernement avait voulu faire pour la santé et se soucier de la santé des gens, il aurait déjà mis des moyens pour les hôpitaux et pas fermer des lits et pas juste une petite augmentation de salaire qui change rien. Nous, on veut pas une augmentation de salaire, on veut plus de personnel, on veut des moyens pour soigner les gens dignement. Donc déjà, ça part mal. Déjà, c'est tronqué. Je trouve que c'est eux qui nous mettent en danger en ne soignant pas les gens correctement.
Et puis je trouve que c'est vraiment dur de juger des gens qui aident d'autres personnes au quotidien. Comment les faire culpabiliser si déjà on aide des gens au quotidien ? C'est pas égoïste en fait, sinon on fera un autre métier. Enfin, du coup, ça je trouve que c'est vraiment dur, surtout pour ceux qui font ça depuis vraiment des années, dans des conditions qui sont pas toujours bonnes parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et les gens sont quand même là et bienveillants. Et c'est eux qu'on traite d'égoïstes et... Parce que les gens ne peuvent pas aller au restaurant. Enfin, voilà.
justement ces parties de plaisir, de loisirs qui ne sont pas accessibles sans le pass sanitaire. Comment se passe pour vous cet aspect de la vie? J'imagine que vous alliez parfois au café ou au restaurant, ou même sur le cinéma, théâtre. Donc, y a déjà un avant-goût de vie de reclus.
On n'est pas. Les journées du patrimoine nous étaient interdites. Donc, moi, j'ai un pass par la force des choses, comme je suis en rétablissement. Mais ça me coûte de le montrer. Donc, je l'ai montré une seule fois pour faire plaisir à mes enfants qui voulaient monter dans l'église. Mais on n'est même pas considérés comme des citoyens, en fait. Et enfin, si on est vraiment marginalisé, montré du doigt, et je trouve ça tellement injuste.
Dans l'histoire, pour ce type de suspension d'activité due à une non-conformité vis-à-vis de la loi, on peut remonter jusqu'à quand, justement ?
Moi, j'ai entendu que ça n'a jamais existé. Pour avoir écouté plus... Après, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas toutes les infos, mais j'ai entendu ça dans un reportage, je ne saurais plus
voilà.
dire.
Je pourrais rappeler quand même que c'était à l'époque de l'État de Vichy, où on a interdit les activités aux personnes juives. Oui. Voilà, oui. On peut remonter à cette période.
On revit cette période. On s'y retrouve.
C'est le sentiment.
Il y a des similitudes, en tout cas.
Il y a beaucoup, voilà.
Et pareil, on est critiqué en disant mais ils se prennent pour des résistants, ils se prennent pour des gens moulins, alors que c'est des inconscients criminels qui vont tuer nos personnes âgées, qui se rendent pas compte. Enfin, ça va loin les comparaisons quand même.
Et puis, vu que toutes les personnes âgées qui voulaient se faire vacciner sont vaccinées, moi c'est ça que je comprends pas. En quoi on les met en danger au final? C'est ma question.
Est-ce que l'une de vous a pratiqué le test antigène avec l'écouvillon dans la narine? Je ne sais pas, moi je l'ai fait pour les journées du patrimoine, ce gros week-end qui avait eu lieu par commodité pour travailler, puisque je devais enregistrer certains spectacles. Mais donc j'ai dû procéder à ce test, c'est horrible. On peut se demander, mais quelle est la personne sadique qui a pu décréter cette application? D'autant qu'il s'agit d'irriter un air qui se trouve au fond de la fosse nasale, je vois pas trop l'intérêt. Y a une autre contradiction aussi, c'est le port du masque. On nous l'oblige parce qu'on peut lâcher du postillon. Ça veut dire que notre salive est porteuse de ce virus. Alors pourquoi aller le chercher dans la narine si on peut en faire par la salive ?
C'est ça.
Il y a des aberrations qui heurtent un peu la compréhension.
C'est ça. Et quand on réfléchit, on se dit avec toutes ces petites choses là incohérentes. Où on en est, quoi?
Comment on peut faire
confiance? Comment on peut faire confiance?
Comment voyez-vous justement l'avenir là, tout de suite, et peut-être à long terme, pour vous, en tant qu'aide-soignante, infirmière ou agent de service hospitalier?
Moi, je me demande si je vais pouvoir continuer dans ce métier, en fait, vraiment. Après, c'est vraiment un métier que j'aime. J'aime vraiment aider les gens. C'est vraiment une vocation. C'est une reconversion professionnelle en plus. Je l'ai fait après mes 40 ans. C'était vraiment un choix. Et là, je me dis, je ne sais même pas vers quoi me tourner finalement. Parce que j'étais tellement là-dedans, tellement à fond, que je ne sais pas. Et je suis abattue, comme si j'avais plus d'énergie pour me retourner après cette situation.
Lors de ces vagues de Covid, il y a eu suspension des soins ou de prise de rendez-vous pour des malades chroniques ou pour des interventions quelconques. Est-ce que ça a repris son cours normalement? Ou alors, comme je l'ai lu aussi dans des articles, à défaut de personnel comme une infirmière, des opérations sont annulées. Donc, il y a aussi une grosse baisse de personnel soignant ou d'assistance pour des opérations chirurgicale. Ce que je voulais savoir aussi, c'est, vous avez entendu ces chiffres il y a un jour ou deux où on a fermé, je crois, 5700 lits toujours en France pendant l'année
2020,
ouais. En pleine période. Donc, mais ce que je voudrais vous faire préciser, c'est qu'est-ce qu'on détermine avec la notion d'un lit? C'est-à-dire, il y a ce meuble, mais il y a aussi le personnel qui est autour pour justement accompagner un patient. Est-ce qu'il y a eu ce type d'incidence aussi à l'hôpital de Die?
Du coup, il y a un service qui a fermé à l'hôpital de Die, du coup, des lits qui ont fermé. Et apparemment, ils ont réussi à remettre le personnel là où donc pas de personnel qui ont été éjectés à ce moment-là. Mais voilà, on travaille quand même toujours en sous-effectif. Donc le personnel qui a été muté dans d'autres services, il a en fait que complété l'équipe qui était déjà en souffrance.
Et vous, pour les personnes qui sont soit en arrêt maladie ou en arrêt de travail, est-ce qu'à votre connaissance, votre poste a été remplacé par quel type de personne? Si c'est un intérim ou alors quelqu'un qui est déplacé d'une ville à l'autre?
Moi, apparemment, donc, mon poste a été remplacé pour 2 mois parce que j'ai un arrêt de 2 mois. Et c'est un contrat de 2 mois qu'elle a, la personne, pour le moment.
Moi, je n'ai pas entendu que mon poste a été remplacé parce qu'il manquait déjà des personnes avant que je sois en arrêt. Et du coup, il y a une personne qui était arrivée à peu près quand je suis partie et je ne crois pas qu'il y ait du personnel en plus.
Je suppose que vous vous retrouvez parfois aussi à l'extérieur, peut-être pour peut-être vous soutenir et puis essayer de trouver du soutien. Est-ce qu'il y a par exemple un moyen de vous joindre de manière à peut-être vous soutenir pour des personnes qui vous écouteraient?
Ben, du coup, il y a un groupe WhatsApp quand même. Pour le moment, il est un peu réservé aux soignants. Et puis, il y avait dans l'idée, on devait se réunir les mardis soirs pour les... Terrasse sauvage, mardi soir et vendredi soir. Je ne sais pas où ça en est, franchement. Voilà.
Quelle vision vous avez, vous, pour les prochains mois?
Moi, je cherche un autre travail. Hein. On m'a clairement dit, si tu aimes ton travail, vaccine-toi. Alors, j'aime mon travail, j'aime beaucoup mon travail. Ce n'est pas la question. Donc, je vais chercher autre chose. Je vais chercher à avoir des sous pour payer mon loyer et nourrir mes enfants, déjà. Je sais que je vais diminuer mon salaire par 2, ça va être compliqué, je vais faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais au moins je serai droit dans mes bottes, je serai en accord avec moi-même et je n'aurai pas la peur de faire une mauvaise réaction.
Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Mallory. Tu vois, tu es infirmière, il manque des infirmières de partout en France. Les aides-soignants, c'est pareil, les ASH, c'est pareil. Comment on peut en arriver là? Voilà.
Ça va être dur de rebondir parce qu'on n'a le droit à rien comme on est titulaire. On n'a
pas
le
droit de... Moi, je suis en CDD.
Moi, je suis en CDI, je suis titulaire. L'info m'a dit que je n'aurais le droit à rien du tout, en fait, si je voudrais donner ma démission. Donc, qui veut dire pas de chômage, rien, aucune aide. En attendant de chercher un autre emploi qui sera dur pour la personne qui est dans mon cas aussi, d'autres personnes, puisqu'il faut trouver le travail. Hein. Mmh.
Il y a un sujet qui m'avait interpellé aussi, c'était cette carence d'infirmières dans les centres hospitaliers, parce qu'il y en a beaucoup apparemment qui pratiquent les tests ou les prises de tests, et c'est assez bien payé, semble-t-il. Il y a cette notion-là, vous aussi, non?
Je sais pas.
Moi, il y a une infirmière de l'hôpital de Die qui m'avait dit que dans son village, il voulait la payer je sais pas combien pour faire des vaccinations ou des tests. Et elle avait refusé par principe et elle venait travailler à l'EHPAD. Elle préférait venir travailler avec les patients plutôt qu'aller tester et rentrer dans ce système-là.
Et puis, vous avez aussi le désir de rester dans ce territoire?
Ben oui, c'est ça le problème. C'est que dans le Diois, il n'y a pas énormément de travail, du coup. Et ben moi, je peux vous dire, pendant 20 ans, j'ai travaillé en restauration, un peu les petits boulots de droite et de gauche. C'est difficile de vivre et de nourrir sa famille, quoi. Vraiment.
Et de là, on pensait à envisager une conversion?
Peut-être, ouais. Après, on n'a pas droit à la formation non plus pour le moment. Enfin, c'est ça qui me tue.
On n'a droit à rien.
En fait, on a...
pas beaucoup d'issues, ouais.
Comment ça se passe? J'imagine, d'accord, que vous avez pu vous rallier avec Valence, mais il n'y a pas une espèce de porte-étendard au niveau du pays, en France, pour vous représenter également?
Moi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs petits collectifs qui se montaient dans différents endroits, mais je n'ai pas vu un gros truc qui remonte. Moi, je n'ai pas trouvé ça.
Et cette question, elle se pose un peu partout en France, sur cet isolement?
Il y a un peu des groupes un peu sur les réseaux sociaux où les gens se parlent et tout ça. Et on voit que chaque personne quand même se trouve très isolée face à cette situation, en fait. Et qu'on essaie tous de se rallier, mais que ce n'est pas évident au final. Bah, du coup, il y a la boîte aux lettres du CGT, de la CGT ADI, où vous pouvez déposer des trucs, il n'y a pas de souci.
Et qui se situe où?
Et du coup, elle est située en bas de la maison administrative de l'hôpital, côté urgence.
Moi, j'ai une maladie génétique. Et en fait, depuis mes 6 ans, ce qui s'est passé à l'hôpital, donc comme on a eu la première vague du Covid, l'hôpital n'était pas touché encore. Et comme on a eu beaucoup de cas Covid dans les services, moi, j'ai fait en sorte d'aller travailler dans les services qui n'ont pas été touchés. J'ai certaines collègues qui ont cru que je me débinais, parce que comme tu me vois physiquement...
Oui, t'as pas l'air malade.
Voilà, sauf que je suis... J'ai une maladie génétique importante. Et mon médecin, je lui ai demandé qu'il me fasse le papier, comme quoi que je le donne à la direction.
Ça existe.
Comme quoi j'étais pas assez immunisée. J'étais quand même obligée de le faire voir à certaines collègues. Jennifer, tu étais là?
Ça m'étonne pas, non, j'étais pas là, mais ça m'étonne pas.
Donc, parce qu'on me disait, toi, qu'est-ce que t'as comme maladie génétique? T'as rien.
Il y a quand même il y a un truc entre les soignants qui est horrible. Il y a un truc à rajouter.
Donc, je l'ai très mal vécu parce que je me suis toujours donnée à fond dans mon boulot. Ça fait 13 ans que je le fais. Et là, cette maladie est arrivée à 6 ans. J'ai 50 balais. Il a fallu que je monte mon petit papier pour me justifier. Et c'est la première fois dans ma vie que je suis confrontée dans un travail. J'ai toujours bossé. Donc, je le vis très mal. J'ai gros sur la patate. Je dis, j'ai envie de chialer. Hein.
Une petite chose, peut-être.
Il y a de quoi.
Justement, je voulais vous poser une question aussi. C'est le secret médical. Qu'en est-il parmi vous, au niveau du personnel?
Il n'y a plus de secret médical. Tout le monde sait qui est vacciné, qui a le Covid depuis quand.
Ça devrait passer par la médecine du travail, mais on n'a plus de médecine du travail à dit. Donc, maintenant, les gens devaient envoyer leur justificatif au cadre qui ne sont pas censés connaître notre situation de santé, en fait.
Tout ce qu'on vit aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est la dictature, parce que comme vous remontez au passé, au loin, tout se déroule comme les anciens, ce qu'ils ont connu. On a eu les couvre-feux, la nourriture, le manque de nourriture, faire des queues, le nombre de personnes. Aujourd'hui, ce vaccin, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, même certaines personnes, ils ont des comportements différents envers nous qui ne sommes pas vaccinés. Moi, je le vis comme ça, aujourd'hui, oui.
Effectivement, il y a aussi des réactions violentes vis-à-vis des personnes non vaccinées qui s'ouvrent de plus en plus et qui ne s'en cachent pas. Hein. Et parfois même, j'ai vu des situations vraiment débiles. C'est des personnes qui crient contre les personnes qui ne sont pas vaccinées alors qu'elles-mêmes ne l'est pas. Enfin, il y a une confusion mentale aussi. D'ailleurs, il y a une grosse inquiétude sur la santé mentale des Français.
Santé mentale des Français, ouais.
Et justement, est-ce que vous vous sentez atteinte dans cette contrainte qui rappelle un peu les mauvaises années de l'occupation et de l'état de Vichy, hein. Mais actuellement, justement, vous sentez une certaine peine en vous de ces conditions actuelles?
Une grande insécurité. Parce que déjà, en tout cas, je parle pour moi en arrêt de travail, où du coup, si je ne peux pas travailler... je fais comment? Du coup, ça veut dire que j'ai même hésité à prendre un boulot n'importe où, mais je suis enceinte, je peux pas faire n'importe quel boulot. Donc du coup, une grande insécurité quand même.
Ouais, et puis de la peine, moi je dirais aussi pour l'avenir et pour nos enfants. Moi, ça m'inquiète énormément, de savoir quelle vie on va mener, quoi. Oui. Est-ce qu'on va devoir montrer un passe pour respirer, pour aller... est-ce qu'on va rentrer dans ce système-là? Moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment. Oui. Et est-ce que ça va durer?
Eh bien, je vous remercie en tout cas, toutes quatre, Jennifer, Mallory, Virginie et Adèle, d'être venues nous parler de votre situation très difficile, donc d'être soignante ou d'être aussi du personnel hospitalier ADI.
Merci.
Et je vous souhaite malgré tout une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
grass trails as she goes, burning patterns in the snow. Snow falls.